Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Il va avoir un réveil pénible.
Les tontons.
J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale.
Oh merde.
Les tontons.
La France est un des rares pays au monde à n'avoir jamais cédé à la tentation totalitaire.
Flingueur.
L'ironie du primate. Humour Louis-Philippard. Le sarcasme prudomesque. Mais vos opinions sur la musique moderne et sur l'art en général, je vous conseille de ne les utiliser qu'en suppositoire. Voilà, et encore pour enfants.
Oh, ça va atomiser. C'est l'émission des tontons flingueurs.
Marie de la Grandière, Gilles Margeron exceptionnellement à la technique et Gilles Bourouille. Pour vous accompagner, merci Gilles, pour vous accompagner dans cette nouvelle aventure des tontons. Aventure un peu particulière puisque nous ne sommes pas en direct exceptionnellement, donc ne nous appelez pas. Pourquoi on n'est pas en direct? Tout simplement parce qu'on a pris l'envie pendant cet hiver d'enregistrer des tas d'émissions comme ça, parce qu'il y avait des sujets qu'on n'avait pas le temps de traiter ou que les gens nous demandaient. Et puis on s'est dit, allez, on va leur consacrer une heure. Alors c'est en toute modestie, ça ne veut pas dire que vous allez ressortir de cette heure d'antenne en sachant absolument tout sur le sujet que nous avons choisi. Simplement, on va essayer d'en faire un petit peu plus le tour que d'habitude. Comme vous le savez, les tontons étant une émission de réaction à chaud sur l'actualité qui ne rentre pas forcément tout le temps dans les détails. Donc,
non, parce qu'on n'est pas très finaux non plus.
Voilà, on n'est pas très bon. On fait ce qu'on peut.
Les meilleurs, hein, loin de là. Hein.
En plus, on ne vous le dit pas, mais on enregistre. Il est exactement minuit 14 et nous sommes, c'est la 8e émission d'affilée. On est très fatigués. Bien, aujourd'hui, thématique particulièrement intéressante, l'environnement. Alors évidemment, tout le monde va dire ouais, l'écologie. Non, justement, c'est pas le but. L'environnement dans le sens le plus large du terme. L'environnement dans le sens, l'environnement pour l'homme, c'est-à-dire pas seulement les arbres, la nature, mais l'environnement, les choix de vie, l'environnement travailler plus ou travailler moins, l'environnement cadre de vie, l'environnement géopolitique, l'environnement industriel, c'est-à-dire tout ce qui compose notre plaisir ou notre plaisir de vivre et de nous développer ensemble. Alors, il y a eu un titre que Gilles particulièrement a choisi, puisque c'est lui quand même qui a bossé un peu plus que nous sur cette émission qui s'appelle « De l'utopie à la réalité ». Pourquoi ? Parce qu'évidemment, nous avons basé cette émission, on va considérer qu'on va essayer de comparer deux générations, et nous avons basé cette émission évidemment sur la comparaison entre ce qui a pu se passer dans les années 70 avec l'utopie d'une génération qui avait des choix de vie pour essayer de comprendre un petit peu ce qu'il en reste. Et puis tout de suite derrière, on s'intéressera à savoir est-ce qu'aujourd'hui finalement on ne se pose pas exactement les mêmes questions, est-ce qu'on n'a pas les mêmes réponses, de voir ce qui a évolué ou ce qui peut être amélioré dans notre environnement. Gilles, à toi de démarrer.
Alors, je me suis inspiré bien entendu d'un canard, parce que moi j'aime bien, je lis pas mal de magazines et de choses comme ça, et j'aime bien Politis, hein, on va lui faire un petit peu de
c'est
pub.
Bien, c'est bien. Ouais.
C'est un bon canard, sympathique, qui se prend pas la tête, mais qui a des idées. Et ils avaient fait un spécial, vraiment le dossier, et ça s'appelait « De l'utopie à la réalité ». Alors l'utopie, moi tout de suite, ting, ça fait tilt, parce que je suis d'une génération où on a beaucoup rêvé et où on nous a traités d'utopistes, justement, on avait plein de rêves.
C'est quoi l'utopie? C'est quoi l'utopie déjà, pour commencer?
Allez, utopie.
Utopie, c'est quoi? Si on en a une définition, quelque chose, non?
Oui, c'est une forme de rêve que certains qualifient d'irréalisable, mais voilà, il y a cette notion un petit peu derrière. Ah, vous êtes des utopistes, vous rêvez à un monde meilleur, etc. Mais en fait, c'est pas possible, quoi.
Ça a été un peu détourné, c'est-à-dire que dans l'étymologie du mot, c'était pas tout à fait ça, mais qu'au fur et à mesure des siècles, c'est devenu un mot qui voulait dire qui n'est ni n'existe à aucun endroit, c'est-à-dire sous-entendu qui est effectivement irréalisable. Mais ça, c'est un détournement sens initial. Ouais,
pour les auditeurs quand même, qu'on dise qu'on a perdu la fiche de la définition du mot, qui est un mot assez récent.
On n'a pas imprimé, on a perdu, écoutez, c'est la merde.
Mais c'était un mot assez récent, effectivement.
Mais vous pouvez
c'était
aller
juste
Internet,
pour mettre la
c'est pas italien. C'est pas du 15e siècle ?
Ah non, je crois que c'est encore beaucoup plus récent que ça, mais c'est vrai que c'est important de dire que c'est un mot qui a été, comme tu disais Gilles,
galvaudé un peu, ouais,
détourné puisque ça voulait dire rêve d'une société meilleure, et qu'on maintenant c'est synonyme de irréalisable.
Alors,
ce qui est révélateur.
Voilà, je vais faire un parallèle avec l'anarchie, par exemple, ou qui est devenu le symbole pour beaucoup de journalistes et d'hommes politiques de bordel inextricable et tout, alors que l'anarchie est une très belle idée au départ.
Hein. Qui est ni Dieu ni maître pour la partie la plus évidente.
Qui est une philosophie qu'on n'a jamais vraiment appliquée et qui serait peut-être intéressant un jour d'y passer.
On fera peut-être une émission là-dessus d'ailleurs, ça vaut vraiment le coup. On invitera notre pote Alain.
Oui. Et puis il y a plein d'anarchistes autour de nous, notamment aussi parmi les chanteurs, musiciens, poètes, écrivains, etc.
C'est finalement quelque chose d'assez noble.
Mais tout à fait, alors que c'est devenu, ça a été galvaudé et c'est devenu la pire des choses.
Quoi. Et avant tout de suite de prendre la parole, précisons simplement que l'anarchie, dans une précédente émission, on parlait du groupe et de la capacité individuelle justement de dire finalement le groupe n'existe que si l'individu se développe d'une façon favorable. C'est la définition même, c'est-à-dire que l'anarchie, c'est pas qu'on refuse tout ce qu'il y a autour, ça veut dire simplement que bon voilà, ni Dieu ni maître, c'est moi, c'est mon développement et si je vais bien, je vais respecter les autres autour. Voilà.
La prise en charge des individus par eux-mêmes.
Voilà. Fondamental. L'autonomie, quoi.
Et foutre en l'air la notion de pouvoir qui est épouvantablement néfaste.
Alors Gilles, quel choix de vie en 70 ?
Normalement. Donc je reviens à cette utopie et à cette réalité. Eh bien, on rêvait d'un monde meilleur après les années 60, 68 et compagnie. Beaucoup de gens se sont dit, bon, ça va, nous, on n'a pas envie de consommer, la société de consommation, le fric, c'est caca, tout ça, l'éducation, nous, on va faire autrement, on va partir à la campagne, on va partir en voyage, retour à la terre, on va faire différents trucs. Et il y a plein de gens qui ont fait des expériences et pas toutes négatives. Hein. On les a aussi caricaturé, on s'est beaucoup moqué de tous ces gens-là. Sauf que par rapport à l'environnement c'est le sujet aujourd'hui, eh bien déjà, il y a 30, 40 ans, des gens qui avaient bien pensé à la chose nous ont dit, eh bien, on va manquer d'eau. René Dumont.
Dumont, par exemple. Voilà. Ouais.
On va manquer d'eau. On va avoir des gros problèmes de pollution. On va avoir des gros problèmes d'énergie. Et donc, il y a 40 ans, il y a déjà des gens qui ont déliré, aussi bien dans la bande dessinée que partout, pour voir comment on pourrait faire autrement que d'avoir l'EDF avec une ligne et pas d'alternative. C'était une époque d'alternative, d'autres, alter, c'est là que le mot alter est revenu, c'est revenu récemment.
D'autres solutions, quoi. Hein.
D'autres solutions.
Pas de pensée unique.
Voilà, pas de pensée unique, qu'elle soit de gauche, de droite ou autre. Pas de pensée unique, il y a d'autres façons de vivre, il y a d'autres façons de construire sa maison, il y a d'autres façons d'avoir de l'énergie, d'autres façons de consommer, etc. etc. Et puis, tout ça a été récupéré, plus ou moins. Mais c'est quand même intéressant de voir que si, à l'époque, on avait écouté peut-être tous ces poilus, ces beatniks, ces hippies, on n'en serait pas là en ce moment.
Non, mais il en reste des choses quand même aujourd'hui.
Il en reste des choses.
Alors qu'est-ce qu'il en reste ?
Il reste le fait que, par exemple, sur l'énergie, a été récupéré, ça y est, on s'intéresse enfin, j'ai dit, aux énergies renouvelables qui sont différentes. Mais comme l'État est malin, il conserve toujours une main là-dessus et tout ce qui touche, il le transforme en caca, c'est ce que j'ai l'habitude de dire. C'est que de bonnes idées comme l'énergie éolienne, l'énergie solaire, qui sont au départ des bonnes idées. Dans les années 70, moi j'ai plein de copains qui ont construit des maisons, qui ont retapé des maisons, qui ont mis des panneaux solaires et qui se sont montés des éoliennes individuelles. Mais pour un État, ça ne marche pas, ça. Il faut un compteur, il faut quand même qu'on reste des brebis faciles à tondre et à traire de temps en temps.
Alors, il y avait un autre aspect, parce que là, évidemment, ça tourne un petit peu autour de la notion environnementale, mais il y avait un aspect, évidemment, philosophique. Il ne faut pas non plus avoir peur de ce mot, parce qu'il n'est pas toujours barbare ou chiant. Il y avait un autre aspect philosophique à la démarche qui était au-delà de l'environnement, le fait de dire que le développement général de l'être humain, au-delà de l'écologie, le développement général de l'être humain, est-ce qu'il est conditionné au fait de toujours devoir progresser? Donc là, on va décoder un petit peu et on va y attacher forcément le mot de croissance, parce que c'est facile, c'est plus facile de visualiser quand on dit faire de la croissance. Ce concept qui a l'air de rien, faire de la croissance, ça sous-entend donc que nous serions dans un développement perpétuel, permanent, limité, contrôlé par rien, et avec évidemment une dépense énergétique, quelle qu'elle soit, que ce soit l'eau, que ce soit les énergies fossiles ou autres, permanente et forcément en évolution, puisque pour croître, il faut être mieux qu'un an avant. Et cette logique-là était remise énormément en question dans les années 70 aussi, où Marie, tu voulais peut-être intervenir là-dessus.
Hein. Non, je voulais pas intervenir là-dessus, je voulais juste recentrer le sujet de notre... oui, non, mais parce qu'à un moment, il faut arrêter de...
Le rédacteur en chef, Oberführer,
va intervenir. Non, mais recadrer le sujet lui-même, c'est le sujet dans notre société, parce qu'on oublie, on regarde par notre...
C'est bien de le faire, dans société occidentale.
Dans notre monde occidental.
On va parler de géopolitique tout à l'heure.
Le cul dans le beurre.
Voilà. On parlera après, mais tu as toujours une capacité énorme, toi, finalement,
non, parce que ça
à vouloir nous faire arriver au sujet d'après avant.
Mais parce que ça m'agace.
Comment est-ce possible?
Non, ça c'est pas le sujet d'après.
Mais si, c'est noté.
Parce que les gens, ils vont hurler. Les gens qui nous entendent, là, ils vont être en train de nous écouter
bavasser,
de l'énergie et les problèmes énergétiques, alors qu'il y a les trois quarts du monde qui crèvent de faim.
D'abord, tu te trompes complètement. Les gens qui sont à l'antenne ne nous écoutent absolument pas. Ils n'attendent que la coupure musicale.
Oui, c'est vrai.
Ils savent qu'on passe des très bons morceaux. Donc, pendant 55 minutes, ils attendent la coupure, Marie. Il faudrait que tu le saches, quand même. Alors, tu parlais de reprendre le cadre. Bon, Gilles...
Démerde-toi maintenant, reprends le sujet
gentil,
d'avant. Voilà.
Il n'y a aucun souci. Quelle vie, quel cadre de vie, c'était une des questions. C'était une des questions quand même, une question au-delà de l'écologie, même si l'écologie a une part très importante là-dedans quand même.
Mais ça en fait partie. Cadre de vie, la maison et ce qui vous entoure. Si vous avez envie de vivre en ville ou à la campagne et dans quelles conditions, etc. Et alors, ce qui était des rêves, des utopies à l'époque où les gens rêvaient de... Il y avait des petits bouquins qui circulaient sur ce qui se passait en Californie, sur les shelters et des choses comme ça, où les gens se faisaient des petits bunkers, mais dans le sens positif du terme, hein, où retapaient des maisons, etc. Mais en faisaient des lieux de vie qui étaient différents et où ils allaient consommer et vivre différemment.
Mais vous êtes allé très loin dans la réflexion à cette époque-là.
Et là, c'est en train de se faire. Parce que les bobos actuels, qui sont les jeunes bourgeois bohèmes, qui ont un petit peu réfléchi, mais qui ont...
Non, il y a des vieux bourgeois bohèmes.
Oui, mais qui ont un peu de thunes, parce que ça, c'est un truc qui est important, qui ont un peu de thunes, se réalisent quoi à l'heure actuelle? Le top du top, c'est de se faire la petite maison en bois, la maison en paille, le l'igloo extraordinaire.
Là, t'es déjà presque, je dirais, dans la... D'ailleurs, j'encourage évidemment les auditeurs à bien comprendre que toujours le même fonctionnement un peu dans ces émissions spéciales, c'est-à-dire qu'après la petite coupure musicale, on aura une partie un peu plus de débat.
Hartung, Gilles, tu as dépassé sur la partie bleue.
Il y aura une partie de débat très très intéressante, je pense, j'espère, après sur le justement en quoi les expériences de la génération précédente sont utiles, et on va évidemment voir que... Mais ça soulève en plus des tas de questions, ce que vient de dire Gilles, c'est-à-dire entre autres la question principale étant que ce que finalement, nous, notre problème en tant qu'individu, c'est pas qu'on n'est pas dans la même dimension, on n'est pas dans la même notion d'échelle, on n'est pas dans la même échelle, plus exactement de notion, pour prendre les choses dans l'ordre, que les politiques. C'est-à-dire qu'on peut envisager des changements. Nous, on aimerait qu'ils se déroulent à l'échelle de la vie de nos enfants. C'est-à-dire que nos gamins ont 5 ans, on rêve des choses, il faudrait qu'à 10, elles soient appliquées. Et on se rend compte en vieillissant qu'en réalité, il faut 20 ans, 30 ans, 40 ans pour que les choses se mettent en place. Donc,
malheureusement.
Mais ça fait partie, je dirais, du débat qui va suivre la pause musicale. Je reviens un petit peu quand même. Toutes ces questions, bon, vous êtes allé assez loin en 68, Gilles. Je pense quand même que vous avez marqué bien au-delà de la génération de 68, puisque celle qui a suivi, en l'occurrence la mienne, est restée en réalité beaucoup plus impactée qu'est-ce qu'elle le pense par toute cette idéologie, et qu'on l'est encore aujourd'hui. Par contre, la question que je me pose, moi, c'est que ces questions qu'on se pose depuis longtemps, de l'homme dans son cadre de vie, de l'amélioration, pas forcément simplement de la notion de confort, on se la pose aussi aujourd'hui. Mais en quoi c'est devenu plus fondamental aujourd'hui? En quoi ce serait devenu plus fondamental aujourd'hui qu'à l'époque?
Du fait de, comment dirais-je, du côté aigu de cette crise généralisée mondiale, qui est une crise à la fois économique, à la fois environnementale, à la fois humaine. On vit, et là, de l'utopie à la réalité, là on est dans la réalité quelque part. On est dans la réalité de ce que les gens ont rêvé il y a donc 30 ou 40 ans. Sauf que la réalité ne correspond pas tout à fait aux rêves. Il y a des parties intéressantes qui existent, hein, tout ce côté de recherche, de gens qui pensent autrement, qui s'organisent autrement, qui essayent de ne pas se faire engloutir par le cataclysme qui nous guette. Alors, quand on a préparé cette émission, tu me disais, mais est-ce que vraiment tu es sûr qu'on est à la veille d'un truc? Moi, il me semble qu'il y a une concordance terrible entre toutes les crises à l'heure actuelle. C'est-à-dire que il me semble que là, l'échéance, elle est de 10-20 ans maximum. Dans les 20 ans qui vont arriver, on va voir des perturbations qu'on n'imagine même pas. On a déjà des petits...
Des perturbations de quel niveau?
À tous les niveaux.
Écologique, social?
Au niveau écologique, social, financier, de tout, économique et autres, mais aussi dans la façon de fonctionner, la façon de pouvoir se déplacer. Quand on parle énergie, la voiture. Regarde comme la voiture, à l'heure actuelle, c'est devenu à la fois indispensable et en même temps les gens enfin rêvent à des alternatives plus ou moins bonnes. Alors, des fois, il y a des mauvaises solutions, hein. Genre voiture électrique à Paris, machin, etc. La voiture libre. Ouais.
Non, mais heureusement, il va y avoir la catastrophe là où je suis. Elle va être économique avant même d'être quoi que ce soit.
Ah non, mais
quoi.
ça va tout concorder.
Et
c'est
heureusement,
ça
c'est la dernière année du monde. Hein. Je vous resignale quand même.
Oui, on va tous mourir. On va tous mourir.
Voilà.
Vous regroupez l'ensemble des critères. Écologie, société, énergie. À partir du moment où on fait ça, il faut plutôt, à mon avis, dire que l'on est dans une crise idéologique, puisque à partir du moment où l'ensemble des critères, à partir du moment où l'ensemble de ces critères vont d'une façon négative dans un mauvais sens, c'est que l'idée qui façonne ces critères ensemble n'est pas la bonne. Et je crois que là, on est obligé à peu près tous d'arriver à cette conclusion. Malheureusement, il y a de plus en plus de gens aussi qui le pensent. Heureusement, je dis malheureusement, mais non, c'est pas vrai, c'est heureusement, il y a de plus en plus de gens qui le pensent.
Ouais, mais
on a un problème idéologique d'organisation de l'homme à sa place.
Face à ce tournant, on peut le contester, on peut le dire qu'il y a encore du temps, qu'on aura encore du pétrole, que ceci, que cela. Toujours est-il qu'on est, à mon avis, on est déjà presque dans le post-capitalisme. On est à la fin.
Mais bien sûr, rien que le fait de l'envisager, voilà, c'est y rentrer. Voilà, bien sûr, bien sûr.
On arrive à la fin des énergies fossiles, qu'on arrive à la fin aussi des grandes idéologies mystiques et autres. On voit ressurgir les fondamentalismes et tous les extrémismes, mais la religion, la spiritualité telle qu'on l'a conçue jusqu'à maintenant est en morceaux. Ça part dans tous les sens, les églises se vident, etc.
Mais est-ce que ça n'a pas toujours existé, ça?
Non.
Les églises, elles se sont fritées depuis des siècles.
Non, pas à ce point-là. Je pense que ça devient de plus en plus urticant. Ça gratte tout le monde, là. Quoi, c'est un truc que tu peux plus ignorer, que tu peux pas...
Tu sais pourquoi je crois que ce critère nous fait particulièrement flipper? Je crois que c'est parce que
Mais moi, ça me fait pas flipper, je constate.
Moi, je crois, non, mais qu'on le veuille ou non, qu'on a beau, se protéger ou ainsi de suite, mais c'est quand même un minimum flippant. Et je crois que d'ailleurs, tout le monde flippe, faut le dire honnêtement, chacun à son échelle, dans son domaine de... Il y en a qui flippent parce qu'ils ont pas de boulot, il y en a qui flippent pour autre chose, mais enfin tout le monde flippe grosso modo. Alors à part les gens qui sont blindés, il y en a quand même pas, c'est 10% de la population.
Et pourquoi on flippe? Parce qu'on a quelque chose à perdre.
Mais pour une raison, ça on va y revenir encore une fois. Marie, excuse-moi, je te restreins pas, on va y arriver dans deux minutes.
On a plus à perdre que dans les années 70.
Voilà, c'est clair. Mais je crois que vous oubliez un critère fondamental quand même dans tout ça, c'est que l'homme n'a jamais eu une telle capacité d'autodestruction dans les mains. Environnemental, nucléaire, bactériologique, bien sûr, et ainsi de suite. Oui. C'est ça finalement le truc qui change tout, le critère qui change tout dans l'analyse, parce que ça s'est déjà produit.
On a déjà expérimenté, on sait ce que ça peut donner.
Tous les historiens ont déjà croisé ce genre de cas de figure. Le capitalisme, c'est pas d'aujourd'hui. L'effondrement du capitalisme, ça existe au 19e siècle, c'est pas d'aujourd'hui. Le critère fondamental qui a changé.
Il y a eu des coups de semonce.
Le critère qui a changé fondamentalement les choses, c'est la capacité d'autodestruction de l'individu à courte échéance. Alors, puisque on va dire aujourd'hui, on va accepter cette idée, on est incapable de mettre une période dessus, et puis je vois pas qui se permettrait d'être assez prétentieux pour le faire. Admettons qu'il existe à court ou moyen terme une échéance pour l'humanité aujourd'hui. On fait quoi? Alors on fait quoi, formulé autrement, qu'est-ce qu'on peut y changer? La réalité géopolitique d'aujourd'hui, c'est quoi à l'échelle internationale? Puisque tu voulais y arriver, Marie, on y est. Tu dis, on regarde les choses d'une façon occidentale. Oui. Bon, il y a des pays émergents qui sont en train de monter. On peut citer la Chine, l'Inde.
C'est intéressant aussi, avant on parlait de tiers-monde, maintenant on parle de pays émergents.
Bah oui.
Ça me fait chier ces trucs-là. Non mais ça me fait chier et pays émergents.
Mais tant que tu perds du temps à discuter sur la sémantique, tu rentres pas dans le fond. Donc parle du fond un petit peu. Donc
voilà,
en quoi
ils émergent? Les pays émergents, c'est quoi? Tu vas parler des pays qui ont donc une donnée économique à vendre. Et on parle même plus de ceux qui n'ont pas de données. Moi, je te parle du tiers-monde, ils ont d'abord une donnée
qui de quantité d'individus. Voilà. Ça, c'est essentiel.
Les deux tiers du monde.
C'est la représentation de la majorité.
C'est nous qui sommes une minorité, là.
On est d'accord.
Les pays émergents, les pays émergents, c'est la Chine, les machins qui ont des trucs.
Te focalise pas sur les termes. Dans le fond, aujourd'hui, la réalité géopolitique de l'environnement, c'est quoi? Les Occidentaux se gavent en allant taxer les énergies chez les pays, dans les pays émergents ou dans les pays pauvres. Bon, on appellera ça comme on veut, on s'en fout. Ne nous détournons pas du fond, parce que tant qu'on s'intéresse à la sémantique, on se détourne du fond. Il y a un moment où nous allons piller les ressources en Afrique, nous essayons d'avoir des commerces le plus avantageux possible avec les pays émergents, on les appelle comme on veut. Grosso modo, aujourd'hui, l'environnement de l'individu, il se dissocie, qu'il soit occidental ou autre. Qu'est-ce que tu voulais dire là-dessus? Tout à l'heure, tu disais c'est pas du tout la même vérité, c'est pas du tout la même réalité.
Parce que les les questionnements et les soucis ne sont pas les mêmes.
Bien sûr.
Entre un gars qui crève de faim et qui ne sait pas comment nourrir ses gosses, et nous qui sommes là à nous dire « Oh non, c'est pas bien, il y a le climat ». Mais attendez, c'est très important le climat, mais c'est pas les... Il y a des choses plus importantes. Nous, on va se taper une crise économique sans doute très grave.
On y est.
Non, mais on y est, Gilles.
Oh,
on
crise économique, c'est discutable, ça. Même ça, c'est
on
discutable.
On y est, on est dans l'effondrement. Ouais, ouais. On est dans l'effondrement d'un empire. Ouais, ça, c'est pas nouveau. Hein. Bon, d'accord, c'est cyclique, c'est historique, ça se passe tous les X temps.
Bon, c'est cyclique, je suis d'accord. Ouais.
Voilà, et on y peut...
60, 70
ans. Je vais vous dire un truc, ouais, c'est qu'on y peut rien.
Non, mais attends, on touche aux limites de l'homme, là. Hein. On en reparlera un peu plus tard dans l'émission, mais c'est les limites humaines.
Vas-y. Mais développe, avance, développe. Je veux dire, okay, ah ouais, okay, voilà.
Eh bien, alors, non, je voulais juste recentrer notre débat avec nos solutions, qui sont nos solutions pour nous, à notre problème. À nous, qui est finalement le problème d'une minorité des êtres humains,
oui,
n'est-ce pas? Et que si jamais, par exemple, la question écologique, puisque tu as enquillé tout à l'heure là-dessus, qui est un des trucs de l'environnement... demain, l'Empire occidental s'effondre, je vais vous dire que derrière les pays, comme tu disais, émergents, ils n'auront plus rien à vendre, ils vont s'effondrer aussi. Donc la pollution, on n'en parle
donc
plus.
Donc tu penses que leur marché intérieur n'est pas suffisant pour survivre?
Mais bien sûr que non. Ah bon, que tu...
Alors là, tu es en train de nous dire à l'antenne, oui, là, que grosso modo, nous sommes dans l'incapacité aujourd'hui.
Tout est foutu, quoi.
En quoi là? Non, mais
tu es en train de nous dire
qu'en cas d'effondrement de ce système, qui à mon avis, mais ça n'engage que moi, est basé intégralement sur du virtuel et sur du vent. La sacro-sainte notion de croissance générée essentiellement sur le débit, par définition, ça n'est que du vent. Tu es en train de nous dire que ce système d'effondre, nous ne sommes pas capables, par exemple à l'échelle de Sainte-Afrique ou de l'Aveyron ou du Midi-Pyrénées, de trouver à bouffer et de faire du business entre nous à 200 km à la ronde. Moi, je pense que tu te trompes complètement vu ce qui s'est passé au niveau de l'humanité.
Alors,
quoi.
Attends, ça dépend ce que tu veux dire par
Gilles
faire
a levé la main.
Du
pardon,
business.
Marie, pardon, hein. Marie répond.
Faire du business, certainement pas. Maintenant, survivre peut-être. Mais faire du business, non, tu l'oublies, quoi.
Ah bah, dès que tu survis, tu fais du business, il y en a qui vendent à bouffer, il y en a qui peignent.
Enfin, entre manger des topinambours dans son potager et faire des factures, il y a une différence.
Oui. Alors, tout ça a été pensé, programmé quelque part, et des gens ont vraiment réfléchi à la chose en programmant déjà, ils ont planifié en vue de l'effondrement. Hein. C'est-à-dire que...
Il c'est qui, Gilles?
Eh bien, ce sont des gens, par exemple, il y a les auteurs du rapport du Club de Rome. Alors,
un groupe, un lobby, quoi.
Qui, à un moment donné, ont réfléchi à ce pic des énergies, la fin des énergies fossiles, etc. Tout ce qu'on vient de dire, je vais pas le répéter. Mais depuis une dizaine d'années, les gens se sont dit, bon, c'est pas tout, on est en train de se casser la gueule, on arrive à nos limites, voilà, on est en haut de la montagne, on va redescendre. Il y a deux solutions. Soit on laisse faire ce qu'on est en train de faire en ce moment, où beaucoup de gens laissent faire, et on se crache de façon extrêmement violente, avec beaucoup de morts, beaucoup de...
Tant mieux pour l'écologie. Hein.
Soit, et il y a une alternative, et c'est à ça que je voudrais arriver, il y a devant ce truc, on est tous foutus, on va tous crever, etc. Il y a des gens qui pensent autrement, qu'on peut non pas se cracher, mais atterrir en douceur et passer à autre chose. Voilà. Et c'est ça que je trouve que c'est l'espoir.
D'autres mondes sont possibles. Hein.
La transition économique et écologique en trouve une fenêtre d'espoir.
Mais bien sûr.
Voilà, moi je pense que c'est quand même... Il y en a un petit peu marre aussi, c'est très français ça, de toute façon, de toujours cracher dans la soupe, etc. Et de se dire c'est foutu, c'est terminé, on n'y peut rien. Donc ça renforce. On marche dans la logique que l'on a voulu nous imposer, hein, pour mieux nous diviser. Et on est là comme des moutons apeurés et d'attendre qu'on nous tonde la laine sur le dos. Moi, je pense qu'il y a encore des solutions, il y a encore des possibilités de mettre des grains de sable dans la machine et de faire autrement.
Alors, Marie disait tout à l'heure quelque chose finalement qui était plus important que ça en avait l'air. Malheureusement, elle n'a pas développé. Je vais y revenir. C'est quand tu disais on n'a pas la même vision. Moi, j'aurais poussé un petit peu, en fonction de l'endroit où on se trouve, j'aurais poussé un petit peu la logique. Imaginons le bon Toubab, l'occidental, qui va se balader en Afrique. Nord ou du Sud, peu importe, au Mali, au Maroc, enfin, il va où il veut, le Toubab, il débarque.
Le Toubab, ça veut dire blanc.
Il arrive, on sent quand même, Gilles, on prend...
Ah ben non, tout le monde n'a pas voyagé.
Il est le Toubab. Mais voilà, grosso modo, tu débarques au bled, on va dire les choses autrement, t'arrives au bled, et là, tu te dis, moi, tu vois, mon garçon, je vais te dire, je suis comme toi, Je suis africain. Formulé autrement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu arrives avec une philosophie où tu as tout compris, tout ce qui te fait dégueuler dans l'Occident, tout ce qui te plaît pas, presque dans le reniement, hein, si on veut pousser la logique au bout. Et tu arrives en Afrique avec ce bagage-là, ça en général, c'est sur les premiers voyages. Après, tu rebondis vite. Hein. Tu débarques en Afrique et puis tu te mets au niveau des mecs. Puis tu dis, ouais, voilà, moi, non. Et puis lui, il te regarde et te dit, mais attends, toi, tu as un portable de 4e génération, le mien, il est la 2e, je veux ton portable. Et toi, t'as beau l'avoir caché, t'as ton petit caméscope dans la poche, et puis lui, te dit, oh, caméscope, génial, il parle que de ça pendant 3 semaines à ses potes, parce qu'il n'y a que ça qui le fait bander.
Oui,
et toi, tu lui dis, mais tu comprends, le développement, c'est pas bon, tu comprends, il faut pas rejeter dans la nature. Et lui, son problème, c'est qu'il n'a pas de station d'épuration, son problème, c'est qu'il n'a pas de station pour brûler les ordures, son problème, c'est
mais
qu'il
encore,
a pas...
Et encore, Gilles, tu parles du mec qui est vachement équipé.
Attends,
moi, je te parle des gens qui meurent
de faim. Je voudrais aller jusqu'au bout, les gens qui meurent de faim, je veux dire,
il
y en a pas mal en France aussi, faudrait arrêter aussi de
se... Il y en a quand même beaucoup plus ailleurs, Gilles. Il faut... bien sûr qu'il y a beaucoup de pauvres en France.
Marie. Mourir de faim, pour être allé un petit peu justement au bled, je peux te dire que, contrairement à ce que tu penses, leur capacité à eux, leur capacité ou le fait qu'ils ne soient pas dans le développement, dans le confort comme nous on l'a été, font qu'en général, au minimum pour ce qui consiste à bouffer, ils arrivent à peu près à trouver à bouffer. Gilles, tu as pas mal voyagé aussi, je pense que tu peux confirmer. On trouve à peu près à manger. Après, on ne va pas forcément se payer une télé ou un Walkman.
Non mais...
Notre problème à nous, c'est qu'il y a des gens qui, à force de se payer des télés ou des Walkman en Occident, qui n'ont plus à bouffer. Ça, c'est un autre paramètre. Mais en Afrique, d'une manière générale, moi, des gens qui crèvent la dalle, grandes épidémies,
si, ils crèvent la dalle dans les villes.
Mais oui, en ville, mais à la campagne.
Et disons que dans les campagnes, non, Gilles, à part l'Afrique du Nord peut-être, mais sinon, dans les campagnes, il y a un niveau. Nous on appellerait ça de la misère. Alors par contre les gens sont plus gays parce que la misère, comme ils y sont habitués, que c'est leur compagne, ils vont arriver à être gays même alors qu'ils sont dans des situations où tu te dis mon enfant il va crever parce qu'il est malade. C'est pas crever de faim, mais c'est quand même limite. Et c'est ça la réalité du monde.
Mais leur quête. On se fout de notre regard occidental sur ces gens-là.
Leur quête, elle est basique. C'est comment je vais survivre demain, quoi.
On se fout de notre quête occidentale. C'est là que je te rejoins dans ta remarque de tout à l'heure. On se fout de notre quête occidentale, de notre regard occidental sur ces gens-là. La seule question qui compte, c'est comment eux vivent leur réalité. Eux, ils veulent nous ressembler. Et là, on a un problème. Donc, Gilles, je reviens et je te repose la question directement parce que c'était là que je voulais en venir. On est, nous, finalement, au stade, pour les plus concernés, au stade de dire on fait pas ce qu'il faut, ça va pas, ce qu'on est en train de mettre en place, faudrait qu'on change de monde. Mais on a généré, dans tous les pays, entre guillemets, en voie de développement, une seule envie, c'est celle de nous ressembler dans le confort. Comment on va faire pour faire autrement et pour faire un autre monde, justement ?
Ah ben, moi, je vois pas ça d'une façon planétaire.
On est dans la géopolitique, on va basculer à autre chose après.
Justement, malgré tous les voyages dont tu parlais, si tu veux, je pense qu'on a déjà à faire autour de soi le minimum. Si chacun, autour de lui, arrivait à régler certains problèmes, arrivait à ne pas nuire, arrivait à se faire un style de vie, une qualité de vie, ça serait déjà pas mal. Et le fait de dire oui, mais la planète ailleurs, etc., c'est évident que nous, petits Saint-Africains, on ne peut pas grand-chose sur la misère en Somalie. On ne peut pas faire grand-chose par rapport à ça, si tu veux.
Donc on s'est fait embarquer dans la vision mondialisée, alors qu'on devrait avoir une échelle plus réaliste et plus modeste. Quoi.
Si, ce qu'on peut faire, c'est envoyer un chèque, machin, on ne sait même pas si ça va arriver, etc. C'est un petit peu la seule chose, à part quelques...
Il faut envoyer des chèques quand même.
Oui.
À Radio Gilles Bourouille.org.
tu te marres, mais quel... Là, c'était une émission, c'est un sujet en lui-même, c'est la charité business, etc., avec toutes les déviances et tout. Ce qu'il faut, c'est pas pour ça qu'il faut pas donner, mais je veux dire, faut se renseigner à qui on donne, hein, de toute façon. Mais c'est vrai qu'il y a des gens, face à ça, par exemple, qui font des projets humanitaires, qui partent, qui vont voir sur place, qui essaient. Très bien, bravo, tout le monde ne peut pas faire ça. Je pense que c'est à chacun, en fonction de sa vie, de voir ce qu'il peut faire par rapport à ça. Il ne faut pas le négliger, il faut en être conscient, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut baisser les bras en disant « de toute façon, on est foutus », etc.
On revient à un problème d'échelle, finalement. On revient à un petit problème d'échelle, et puis après l'échelle, on va soupirer, on va respirer un petit peu. On revient à un problème d'échelle qui est très simple. C'est qu'à l'époque où il n'y avait pas la télé, finalement, comment ça se passait ? Bah à mon avis, les gens, ils faisaient gaffe, hein. Ils faisaient gaffe, mais ils faisaient pas gaffe au Mali, ils faisaient pas gaffe à tout ça. Ils regardaient dans leur village, et puis ils disaient, tiens, la famille machin, ils ont pas trop de thunes, mais on va peut-être leur filer un canard à Noël, et ainsi de suite. Et finalement, on se rend compte que tout ça est vachement conditionné la mondialisation, notre environnement, je dirais plus exactement notre capacité à améliorer notre environnement est très conditionnée par le regard mondialisé imposé lui-même par un ensemble de prismes que sont les médias et autres. Et finalement, plus on est mondialisé, plus on a une représentation du monde et plus on nous dit surtout, bougez pas, c'est pire ailleurs. Parce que c'est ça finalement, si on réfléchit bien, la fonction principale d'un journal de 20 heures, c'est de nous balancer des faits divers de merde en nous disant « mais vous êtes vachement heureux, il y a vachement pire ailleurs ». Et tant qu'on est dans cette fonction mondialisée, on ne remet jamais rien en question et on a vachement envie de garder nos prérogatives. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en débattre après.
Finalement, je suis assez d'accord avec toi, même si je crois... Oui, si faut le dire, ça m'arrache le cœur de le dire, mais je suis assez d'accord avec toi. Mais par contre, effectivement, il y a la deuxième arme, c'est que, par exemple, les menaces écologiques, etc., contrairement, bon, la menace économique, mais on nous met la pression sur des peurs, c'est l'arme numéro un pour maintenir le peuple bien ancré. On l'a vu les tours à New York, hein, ok, on a vu la peur, le machin. Alors chez nous, c'est un peu plus en France. Si pour restreindre, c'est un peu plus sophistiqué. Enfin, sophistiqué, c'est quand même des
gros ficelles. Bon, encore que c'est pas anglo-saxon, mais bon.
Hein, voilà, c'est pas la peur de l'ennemi. Il y a un gros barbu qui va nous foutre sur la gueule.
Il n'y a pas le mal et le bien.
Mais par contre, c'est les mecs serrer les fesses parce que vous n'allez plus avoir de boulot. Les mecs serrer les fesses parce que le climat, ça va péter. Et voilà. Et donc tout le monde. Et on nous coupe les couilles comme ça, même moi si j'en ai pas.
Il n'y a pas d'urgence, c'est pire ailleurs. C'est le concept numéro un du média.
Ça, c'est encore autre chose.
Non, mais c'est le concept numéro un du mass-média.
C'est vrai que c'est pire ailleurs.
C'est le concept numéro un du mass-média pour faire qu'on ne change absolument rien à notre environnement, parce que c'est quand même la thématique de cette. Pourquoi nous ne changeons rien à notre environnement? C'est par peur que ce soit pire. Alors qu'en réalité, nous sommes dans une position extrêmement favorable pour changer des tas de choses.
Voilà, nous sommes
on verra en deuxième partie comment on peut essayer de faire changer les choses d'une façon groupe ou individuelle sur notre environnement, tout ce qui touche à notre environnement. Gilles, t'as choisi quoi comme musique?
Un petit Mickey 3D qui fait une chanson sympa, mais quand même pas très positive. Il dit qu'il n'y a plus rien. Hein
enfin, ah oui, il dit ça lui.
Oui.
Bon, allez, on écoute. We'll be right back. retour sur les Tontons Flingueurs après ce petit morceau de Mickey 3D. Je vous rappelle que c'est une émission qui a été enregistrée pendant nos longues nuits d'hiver. Voilà, ne nous appelez donc pas au téléphone. Nous parlions de l'environnement, mais pas l'environnement dans le sens écologique pour ceux qui débarqueraient de leur planète Z. Nous parlons de l'environnement dans le sens l'homme, son environnement, ses choix de vie, qu'est-ce qu'il veut faire, pourquoi finalement on est toujours en train, on a tous un peu l'impression qu'on tourne dans des cycles là, que les choses se reproduisent au niveau de l'histoire tous les 60-70 ans, et puis finalement en 70 on rêvait, on avait des utopies, et puis aujourd'hui on rêve, on a des utopies, mais est-ce qu'on nous resserre pas la même salade? Voilà, ça c'était la première partie, ce qui nous permet maintenant de rentrer dans un débat un peu plus ouvert sur, d'abord première question que j'ai envie de poser à Gilles Margeron qui nous fait gentiment la technique sur cette émission, les expériences, voilà, et les expériences de la génération précédente. Gilles, j'ai envie de te demander, on vient d'en parler pas mal quand même, cette utopie finalement, est-ce qu'elle a servi, est-ce qu'elle trouve des applications aujourd'hui ou pas du tout?
Elle a servi, bien entendu. Moi, je crois que c'est des graines qui ont germé plus ou moins. Et on parlait du tiers-monde. Marie parlait du tiers-monde et, ou des pays émergents, etc. On s'aperçoit, alors, le rêve, l'utopie a pris réalité quand tu vas dans certains villages d'Afrique et que tu vois des villages qui sont autonomes grâce à des panneaux
solaires.
Et c'est le béaba, quoi. Alors, c'est des petites choses. Malheureusement, ça pourrait être bien, bien mieux. Mais ça y est, c'est des choses qui ont mis 40 ans à se mettre en place, mais enfin ça y est, c'est lancé et on pourra pas l'arrêter, quoi.
Oh, c'est intéressant ce que tu dis là. Moi j'ai envie de rebondir là-dessus tout de suite. Comment ça a pu se faire ça? Tiens, des panneaux solaires en Afrique. Parlons-en 5 secondes, vraiment très rapidement. J'ai eu la chance, moi, de voir une association issue d'un service public, parce qu'à l'époque c'était un service public, je pense à EDF. Et EDF avait des retraités, et ces retraités ont décidé à un moment de se regrouper, et ils se sont organisés dans une association. Et cette association a fait un travail phénoménal d'équipement. Moi, j'ai eu le plaisir de faire un montage pour eux, un montage de film de leur expérience qui s'est étalé sur 10 ans d'installation de panneaux solaires en Afrique. D'une façon extraordinaire, mais surtout en donnant l'autonomie aux gens, pas seulement en mettant des panneaux, parce qu'on connaît les problèmes aussi, il faut derrière que ça suive au niveau technique et ainsi de suite. Hein. Bon. Et ça a pu se faire parce que c'était du service public. Aujourd'hui, quelle entreprise privée financerait ce genre d'initiative? C'est peut-être un autre débat, mais je le glisse comme ça vite fait dans la discussion.
Je pense que ça existe. S'ils ont un intérêt quelque part, ne serait-ce que...
C'est du mécénat, alors.
Voilà, ne serait-ce que pour se refaire une vertu ou pour essayer de faire passer
d'autres choses.
Mais
ils vont en
avoir
besoin de se refaire une vertu, hein, EDF. Hein,
oui,
parce
oui.
que franchement, comme sacripant, et j'utilise un mot volontairement, j'ai encore eu quelqu'un qui a essayé de me fourguer des panneaux solaires pas plus tard qu'hier, en me disant que c'était quelque chose de bien pour l'avenir ouais. de la planète.
Mais est-ce que c'était EDF?
Ça devient compliqué parce maintenant EDF qui s'est scindé, c'est là...
ERDF,
je ne maîtrise pas etc. tout. Il y a ERDF, bon, mais tout ça c'est la même boîte. Hein. Il y a RTF. Ça, je crois que ce sont
ça,
les
c'est
gars.
Le réseau.
C'est la partie réseau,
c'est la partie technique.
Les gars qui vont mettre les poteaux.
Des gens qui prennent le label et qui s'en servent.
ERDF, mais oui, mais tout ça, attends, ça reste quand même EDF qui est au centre de, qui est au-dessus de ça et qui a des différents soi-disant partenaires parce que vous savez qu'il y a eu donc soi-disant l'ouverture du marché à d'autres.
Ils ont été contraints par l'Europe.
Attention, les gens qui ont voté pour l'Europe ont imposé cette chose-là de fait, sans s'en rendre compte peut-être, mais ils l'ont imposé. Hein, ça a été imposé par l'Europe. Hein.
Et exactement, je ne dis pas que c'est...
Et actuellement, c'est la SNCF, on ne s'en rend pas compte, on est en train de faire financer par l'État l'intégralité de la réfection du réseau avant de le vendre au privé. Il faut être bien conscient de tout ça.
Oui, bon, comme
ça,
c'est autre chose. Passé pour EDF.
Ce qu'on appelait à l'époque l'AMI, l'accord multilatéral sur les investissements.
Qui est une grande idée, EDF. Attention, là, après, si vous voulez, on parlera peut-être d'autonomie.
On va en parler de l'autonomie tout à l'heure, ouais.
Tout de suite, parce que EDF, tout ça, c'est un sujet un peu,
c'est
un
autre
peu
chose.
Annexe.
Alors, excuse-moi Marie de recentrer un petit peu les expériences de la génération précédente. Donc Gilles, aujourd'hui, on se dit, bon voilà, l'écologie, finalement, elle rentre dans les mœurs. Bon, elle rentre dans les mœurs comment? Elle rentre dans les mœurs par deux biais. Elle rentre dans les mœurs dans les esprits, tout le monde veut être écolo, et surtout, pour des questions politiques, il y a beaucoup de mouvements qui décident de dire que l'écologie n'appartient pas au mouvement écologique, c'est-à-dire que tout le monde peut faire de l'écologie. Ça, c'est l'intégration, merci Monsieur Nicolas Hulot, c'est l'intégration médiatique de l'écologie. Et dans un deuxième temps, il y a l'intégration, on va dire, industrielle de l'écologie. Alors évidemment, c'est peut-être très loin de ce dont vous rêviez à l'époque.
Ah ben complètement, on rêvait à de l'autonomie.
Alors, hein, individuelle donc.
Individuelle, que les gens qui pouvaient le faire, et peut-être, pourquoi pas, une autonomie de groupe au niveau d'un village, au niveau d'un quartier, au niveau de... Voilà. Et on voit fleurir maintenant dans certaines villes des éco-quartiers, on voit des initiatives qui fonctionnent et ça marche. Contrairement à ce qui pouvait se bricoler un petit peu dans les années 70, qui était quand même, il fallait avoir la caisse à clous pas loin, on arrive à des choses un petit peu plus sérieuses. Malheureusement, c'est toujours, c'est très souvent repris en main par des gens qui veulent faire du fric, hein, parce que c'est ça qui mène la société actuelle. Là, le serpent se mord la queue, on est toujours dans...
Excusez-moi, moi, question fondamentale, je me tais parce que je vais hurler. Hein,
Marie va hurler. Attention, bouchez-vous les oreilles. Marie va hurler.
D'abord, Gilles, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Il y a des expériences depuis les années 70. J'ai eu la chance, parce que je suis une véritable bobo, moi, de voyager un peu et d'aller au Nouveau-Mexique. Et comme tu disais tout à l'heure, il y a la Californie, bien sûr, également. Il y a des tas de gens, des vrais beatniks des années 70,
qui vivent dans des hippies.
Qui vivent dans des cahutes improbables, qu'ils ont fabriquées avec des vieux pneus, des machins, des trucs de récup, et qui sont autonomes énergétiquement parlant. Ces mecs-là, c'est des vrais écolos, il n'y a aucun problème. Bon. Là aujourd'hui, l'écologie, pour moi, c'est un mot, ça ne veut plus rien dire. On l'a mis à toutes les sauces.
Mais toutes les sauces, tu
me dis qu'il y a eu des progrès, c'est nul. Les produits qui sont vendus comme produits écologiques, comme apport d'énergie, comme même les bâtiments, ce qu'on a appelé, les BBC, les bâtiments basse consommation, tout ça, en fait, on a essayé, comme tu le disais d'ailleurs, de conjuguer, ça a été repris par notre société capitaliste pour faire des profits, et on a essayé de bricolasser des machins pour que ça ait l'air d'être vert et donc surfer sur une mode. Alors, ce qui est intéressant,
je suis d'accord, mais là tu parles de la déviance. Moi, je reste persuadé qu'il y a des...
Qu'est-ce qui reste sur le fond, quoi?
Il y a des gens qui ne sont pas dans cette déviance-là et qui sont sincères et font des choses.
Mais il y en a plein, des gens sincères, voilà, mais ils n'ont pas les moyens. On ne leur donne pas les moyens aujourd'hui d'être sincères. Non, ça
reste... Il y a une autre question. Moi, je suis... Alors là, ça pendant l'émission, pendant la préparation, pardon, parce que précisons quand même, évidemment, que cette émission est un tant soit peu préparée. Plus exactement, nous nous fritons joyeusement pendant 2-3 heures pour savoir ce qu'on va vous raconter. En réalité, on a envie de vous raconter ce que l'on pense. Et vu qu'on pense tous différemment, forcément, c'est un peu le bordel. Et lors de la préparation, il y a un truc qui était très clair, qui était que moi, là-dessus, Marie, j'ai envie de te dire, stop. Ce que l'on peut aujourd'hui imaginer, et là, je parle pour le grand public... Je parle pour le consommateur de base qui a deux problématiques, nourrir sa famille et l'équiper, on va dire entre guillemets. Ça peut nous déplaire, mais c'est comme ça. Il y a des gens qui sont dans ce fonctionnement entre guillemets et sans péjoratif, basique. Ces gens-là, l'écologie, c'est quoi pour eux? C'est moi, je deviens écolo du jour où le produit écolo, il est 1, soit au même prix, 2, soit moins cher que le produit que j'ai acheté avant.
Mais
ce
oui,
jour-là, il accède à l'idéologie, on va dire, environnementaliste. Parce que j'ai bien l'idéologie environnementaliste. Aujourd'hui, est-ce qu'on s'est proposé ça aux particuliers si l'industriel ne s'empare pas du process? J'aurais qu'on me réponde à cette question.
Oui.
Mais non.
Non.
Si.
Ah bah
si,
débattons de ça, je suis pas d'accord.
Si, pas pour peut-être le plus grand nombre, mais c'est un état d'esprit, c'est une démarche, c'est une histoire de conscientisation aussi. Tu peux accepter, par exemple, ça me concerne directement, tu peux accepter de payer des produits alimentaires légèrement plus chers si tu sais qu'il t'en faut moins et qu'ils vont te maintenir en bonne santé. Tu préfères, tout le monde d'aller donner à l'heure actuelle et beaucoup préfèrent acheter de la merde parce que c'est pas cher, sans se préoccuper, c'est les premiers qui vont pleurer le jour où...
Il y a un aspect culturel.
C'est les premiers qui vont hurler le jour où ils vont tomber malades en disant « Ah merde, j'ai un cancer. »
Mais il y a un aspect culturel. Il y a un aspect culturel fondamental.
Je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous dites, et c'est pour ça que ça m'agace.
Les deux en même temps,
comment tu peux ne pas être d'accord? Je sais ce que tu vas dire.
Donc tu as une oreille qui en écoute un, l'autre oreille qui écoute l'autre.
C'est culturel. Gilles, il me dit que c'est une question de choix, et moi je vous dis c'est ni l'un ni l'autre, parce qu'un mec qui gagne le SMIC et qui a deux gosses et qui vit à Paris, je vais vous dire, il a pas le choix. Hein, il va acheter.
On est bien d'accord, on dit la même chose.
Donc c'est ni culturel ni une question de choix de manger moins. Il est déjà au taquet, le gars, quoi. Donc, c'est pas...
Mais pourquoi à Paris, d'ailleurs, c'est pareil en Aveyron.
Non, non. À Paris, pourquoi je dis Paris,
c'est
parce que
ici... C'est moins grave,
c'est parce que...
Je connais des gens qui crèvent la dalle, ici. Hein.
Oui, bien sûr qu'il y a des gens qui crèvent la dalle partout. Mais dans une grande ville, les loyers, parce que les gens ne sont pas propriétaires, les loyers, etc., déjà, les sous qu'il faut pour... Le SMIC est le même à Paris qu'ici. Sauf qu'ici, t'arrives à vivre bien avec un SMIC. À Paris, tu... C'est terriblement
Difficile. Tu dors même pas dans un garage.
Exactement. Donc c'est pour ça que je parle de Paris comme étant la ville la plus chère.
Parlons
qu'on
d'une ville, d'une ville, la ville en manière générale.
Mais on a 12 millions de personnes à Paris, hein, c'est important. Hein, d'une sur ville, 60. Les villes
en mais Marie, si on voit toujours le côté négatif et le verre à moitié vide, on ne peut pas avancer, je veux dire.
Non, mais tu me disais que c'était une question de choix, Gilles,
oui,
pour les gens.
Je pense qu'à un moment donné, c'est une histoire aussi de conscience et de choix. Malheureusement, il y a des gens qui parlent. Les hasards de la vie ou autres se sont trouvés dans des situations dramatiques, et je suis d'accord. Et cela, eh ben, ventre affamé n'a pas d'oreille, hein, c'est très clair. On pense qu'une chose, c'est à bouffer d'abord. Ça, c'est clair. Mais, et je pense qu'il y a des choses à faire, mais là, au niveau du groupe et au niveau peut-être de... Je suis désolé, j'interpelle les politiques. C'est là où ils devraient intervenir. C'est que si on fait de la politique, c'est justement pour s'occuper de cela. Ceux qui ont le choix, ils doivent se démerder, ils peuvent être autonomes.
Normalement, le politique devrait s'intéresser à l'intérêt collectif, de manière générale, dans la base.
Il me semble. Mais là, c'est
un autre débat.
Là, c'est un autre débat, parce qu'effectivement, les Restos du Cœur ne devraient pas exister, je veux dire. Enfin, c'est quelque chose qui devrait, tout ce qui est arrivé ces 40 dernières années, de par justement nos dirigeants, quels qu'ils soient d'ailleurs, hein, qui ont favorisé, amplifié les crises qui se sont succédées, etc., on ne serait pas dans cette situation-là. Ils ont une responsabilité. Mais si on est toujours après dire oui, mais il y a ceux qui crèvent la dalle, etc., bien sûr, c'est une chose, et on peut faire chacun son niveau, penser à son voisin. Moi, là, on était dans une autre problématique, si tu veux. C'est de dire, par rapport à ce qu'on nous prépare, qu'est-ce qu'on fait ? On baisse les bras et on attend la catastrophe, on attend que l'avion se crache et voilà, jouissons un dernier coup. Ou si on essaye de réfléchir et d'essayer petit à petit, et peut-être par l'exemple, la foi de l'exemple, d'arriver...
On va en parler tout de suite après, Gilles. On va en parler tout de suite après, les solutions autonomes.
De tous ces gens qui sont en ville et qui se... Moi, j'en connais plein qui étaient en ville et qui ont décidé de venir ici. Il y en a plein.
On va parler des solutions dans deux minutes.
Excusez-moi, je vous interromps. Parce que c'est plus facile.
Je vous interromps, c'est moins difficile.
Tout à fait, c'est moins difficile.
Mais si vous voulez, il y a deux notions opposables quand même. C'est-à-dire que, évidemment, il y a la conception. On va schématiser un petit peu la conception politique, c'est-à-dire la conception du type qui est censé réfléchir pour le groupe et qui lui dit l'objectif c'est la croissance, parce que la croissance amène, formulé autrement, excusez-moi, mais le confort amène le bonheur de l'individu, et des individus individuellement ou en groupe, bien sûr, mais ça c'est un autre, voilà, l'individu qui est individuellement en groupe se rend compte que son problème n'est pas du tout là, son problème il est vachement plus simple, lui, c'est un, essayer de nourrir sa famille convenablement, deux, ne pas trop s'emmerder dans son métier, et trois, si possible, avoir un petit peu de temps et un peu les moyens pour des loisirs, c'est-à-dire des choses qui sont censées le faire respirer. C'est la notion de survie de base d'un individu aujourd'hui dans la société. Bon, à partir de ce moment-là, ces deux notions opposables, on peut lutter de différentes manières. On peut lutter dans ce qui va améliorer notre confort à l'échelle individuelle, et on peut lutter dans ce qui va être comment on peut améliorer le confort d'une manière générale du groupe, le groupe donc de la société à son échelle. Il y a une question que je voulais vous poser, que j'aurais aimé vous poser il y a quelques semaines quand on a fait cette émission sur les groupes et que je n'ai pas pu vous poser, qui est est-ce que l'on peut finalement dissocier la notion de groupe qui fonctionne de la notion du nombre d'individus qui y sont regroupés. C'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas finalement simplement piégé, je formule ma question autrement, est-ce qu'on n'est pas finalement complètement piégé par le nombre ? C'est-à-dire que ce que la centralisation de plus en plus importante d'individus, et là je pense qu'on touche à l'environnement et à l'écologie d'une manière philosophique, est-ce que plus on veut nous faire vivre ensemble nombreux en uniformisant nos modes de pensée et de consommation, est-ce qu'on nous rend pas évidemment un de moins en moins autonome et deux de moins en moins libre d'une manière générale, donc est-ce qu'on peut améliorer notre environnement dans des groupes d'individus aussi importants?
Ben, dès que le groupe est un peu trop important, c'est pas possible, justement. Moi, je crois aux petits groupes.
C'est la tribu, quoi.
Aux gens proches de soi. Et si déjà tout le monde faisait ce boulot-là, je pense que ça irait un petit peu mieux. Et on pourrait peut-être avoir un petit peu de rab, si je puis dire, pour s'occuper, effectivement, de projets mondiaux et d'aller voir ailleurs. Enfin, encore que je me méfie énormément de ces choses-là. Mais parce qu'il y a eu tellement...
C'est l'antithèse, la mondialisation.
Tellement d'arnaques par rapport à ce truc-là que... voilà, déjà que les gens prennent conscience, se posent les bonnes questions. Tu prends l'exemple du type qui effectivement galère à Paris dans des situations pas possibles.
Alors, ou à Marseille ou à Toulouse.
Une grande ville et où il en est à déjà peut-être pas avoir de boulot et tout. Est-ce que cette personne-là, par le biais justement de groupes, d'associations ou d'autres, ou d'amis, ne peut pas dire à un moment donné, bon ben ici c'est plus possible, on va essayer de trouver autre chose.
Mais Gilles, le problème c'est que je te parle pas du mec qui galère, je te parle du mec moyen. Le type moyen...
C'est encore pire.
Le mec moyen chez nous...
Alors là, moi, je ne suis pas d'accord. Le type qui n'a pas
accès... Je te jure, ça fait trop longtemps que peut-être que tu es ici. Parce qu'ici, on a une qualité, ce qu'on appelle la qualité de vie. C'est vrai qu'on est à la campagne.
Moi, je suis pas d'ici, je suis venu la chercher.
Oui, mais on finit par manquer de recul en Aveyron.
Mais si tu veux, déjà, il y a plein de choses ici. Déjà, il y a une notion de groupe. Qui a beaucoup plus qu'ailleurs, qui est la notion. Les gens se tiennent les
coudes. Qui existe en milieu rural d'une façon générale, mais qui en Aveyron est renforcé par l'aspect militant, j'aurais rajouté ça, historique
et
militant.
Mais moi, je connais plein de gens qui galèrent, comme tu dis, qui survivent quelque part, mais quand tu leur parles de la campagne, ils hurlent, ils disent mais qu'est-ce qu'on irait faire dans
qu'est-ce qu'on va aller s'emmerder dans un
trou pareil. Qui n'ont pas la démarche de dire allez. On fait un pas de côté, on fait une démarche.
Gilles, réalistiquement parlant, ici, tu débarques, t'es caissière ou maçon, et il faut qu'il y ait une place de caissière ou de maçon, d'accord ? T'as deux salaires, t'as deux gosses. Si tu arrives ici et que t'as pas une place de caissière ou de maçon,
on est les contre-exemples, nous sommes des contre-exemples. Nous sommes des contre-exemples.
Pourquoi? Parce que nous sommes des bobos, parce qu'on a des existences, on a des jobs qui nous permettent d'être indépendants.
Excuse-moi, je recadre un petit peu, Marie, ça me paraît important là, avec ce que tu es en train de dire. Tu dis on est des bobos. Alors on va définir deux minutes ce que ça sous-entend cette notion-là. Deux secondes. Il y a 10 ou 15 ans, ou il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 50 ans, il y a 60 ans, à l'époque de Gilles comme à la nôtre, il y a des gens qui ont fait des choix. Ces gens, ils ont fait des choix en disant « Nous, on pense qu'aujourd'hui, le système dans lequel on vit ne nous va pas. » C'est un choix individuel avant tout. Ce n'est pas un choix de groupe. Et ils ont dit « Moi, éventuellement, ma famille, je ne la vois pas comme ça, ma vie, je ne la vois pas comme ça, mes choix, je ne les vois pas comme ça, je me donne les moyens d'en avoir d'autres. » Et ils ont pris leur bagage, comme certains ont pu, dans certains cas, à certaines époques, émigrer dans d'autres pays pour arriver à la même démarche, les Barcelonnettes dans les années 1900 pour les gens qui sont partis des Pyrénées et ainsi de suite, qui ont dit notre vie ne nous satisfait pas, notre vie de montagnard, on ne va pas, on se fait chier, on se barre. Bon, n'appelons pas ces gens-là trop facilement des bobos, parce que le qualificatif de bobo sous-entend celui qui avait les moyens de faire, donc qui a fait. C'est pas si simple que ça. Le bobo, c'est peut-être, c'est récent, mais on va aller au-delà du bobo. On va dire le type qui prend la responsabilité, quel que soit son niveau social, culturel, financier, de bouger en disant « ma réalité ne me va pas, je m'en déplace », il démontre à l'ensemble des autres individus bien que sûr. C'est quelque chose de possible.
Donc c'est plus un bobo, c'est un éclaireur.
Moi je crois que c'est un éclaireur. Donc
le bobo arrêtons... c'est le bourgeois bohème.
Finalement, non mais arrêtons de nous auto, sous prétexte que peut-être justement il y a une facilité de tchatch, on en parlait hors antenne tout à l'heure. Une facilité d'expression, peut-être une certaine culture. Nous ne mélangeons pas tout. Il y a un moment quand même où l'individu reste libre de ses choix. Et celui qui fait le choix de changer son mode de vie, il est avant tout un éclaireur pour lui-même et inconsciemment, et ça va être justement une parfaite transition pour la partie qui nous reste à mener dans cette émission, un éclaireur pour les autres.
Court, hein.
C'est-à-dire que je suis qu'il est, il est, oui, ben oui, il est bientôt la fin, mais on a encore un petit peu de temps pour dire tout ça.
Je voudrais juste dire un truc. Il est beaucoup plus facile. C'est pas une question forcément de moyens, mais tu as dit le mot culture aussi. Il est beaucoup plus facile pour un bourgeois bohème, même s'il n'a pas un radis, de prendre cette liberté d'être un éclaireur que pour un gars qui va... Et là, tu as une notion de culture dont parlait Gilles tout à l'heure.
Que tu réfutais, toi, au début de l'émission. Ouais.
Parce que la notion de culture, ça va être aussi une, peut-être une notion de facilité de trouver des choses ou de...
La culture, c'est s'intéresser. Elle commence quand on s'intéresse, la culture. Si on s'intéresse, on va chercher. Si on va chercher, on s'enrichit.
C'est bon, c'est un peu, je ne me lancerai pas dans cette définition, Marie. Mais ça va être plus facile pour quelqu'un qui a de la culture ou un bagage de faire ce travail d'éclaireur
facile.
Que pour quelqu'un
bien sûr,
qui...
Bien sûr, alors, mais moi je connais bien, pour l'avoir fréquenté pas mal, le milieu néo-rural, ancien, hippie, beatnik, 68 art et tout, qui a inondé les régions de France, comme le sud Aveyron. Pourquoi ? Parce que c'était l'exode rural à l'époque et que tout le monde vendait les baraques à 3 francs 6 sous. Il y a des gens qui sont arrivés dans le sud Aveyron il y a 40 ans, qui ont acheté une ferme pour l'équivalent de 10 000 balles ou même de 5 000 balles.
Et ce, jusqu'aux années 96-97.
Voilà. Et parmi ces gens-là, je peux te dire qu'il y a aussi bien des fils de concierges que des bourgeois.
Il y a des gens qui ont eu le pif de tous les milieux.
Il y a des gens de... Mais dans les années 70, c'était dans l'air du temps. Ce qui est un peu moins maintenant, c'est vrai. C'est plus facile de se faire porter par l'air du temps, par une culture, par des lectures, par des films. Parce qu'il y avait énormément de choses. Il y a énormément de bandes dessinées, en passant par La Gueule Ouverte, Reiser, Charlie Hebdo et compagnie, qui véhiculaient aussi
ce genre de trucs. Et ça continue après avec des magazines comme Village Magazine.
Voilà. Finalement, tu faisais partie d'une majorité à l'époque, quand tu faisais ce genre de trucs.
Pas d'une majorité, mais c'était dans l'air du temps. Ouais. Il y a des gens qui ont choisi autre chose. Il y a des gens de ma génération qui sont en costard trois pièces et qui jouent à la bourse.
Beaucoup d'anciens hippies.
Voilà. Il y a de tout. Et on a beaucoup craché sur cette époque-là. Je pense que, heureusement que c'est arrivé, parce que les gens ne se rendent absolument pas compte de comment était la vie avant. C'était vraiment gris et pas marrant du tout, quoi. Et là, il y a eu justement ces émergences d'idées.
Mais ce sont des périodes comme aujourd'hui, d'ailleurs, où finalement, à travers, on critique souvent Sarkozy, mais pas tellement le personnage. Plus, d'ailleurs, très souvent, tu disais tout à l'heure sur une autre émission, je me souviens plus, qu'on critiquait énormément Sarkozy. Oui, mais c'est pas la critique de la personne, c'est la critique de ce qu'il représente. C'est la critique de ce qu'il représente. Il représente finalement pour la génération précédente un truc qui était très proche de ce qu'on reprochait à De Gaulle à l'époque, c'est-à-dire une société un peu sclérosée avec des vieilles valeurs morales où finalement l'innovation n'est pas autorisée, où le droit de choisir n'est pas autorisé. Alors il nous reste 2 minutes, ce serait quand même intéressant sur ces 2 dernières minutes de voir que dans les solutions individuelles, c'est-à-dire qu'avant de se demander comment changer l'environnement des autres, l'environnement de la planète, ce serait intéressant de comprendre comment chaque individu reste libre de changer son propre environnement. Simplement, effectivement, faire le choix de mieux bouffer au lieu d'acheter des Nike aux gamins, c'est un choix purement stratégique. Faire le choix de mieux manger plutôt que d'acheter le dernier Toshiba d'1,20 m de large, c'est un choix stratégique. Faire le choix de ne pas s'endetter 10 ans sur une bagnole et de bien bouffer, c'est pour pas que son gosse soit obèse, c'est un choix stratégique. Il y a un moment ou un autre, effectivement, c'est l'individu, la prise de conscience de l'individu qui pourra éventuellement changer les choses dans la société. Parce que si l'individu n'achète plus les produits de merde que lui propose la distribution, le problème est totalement réglé. Vous avez un petit mot sur l'autonomie en 1 minute, 1 minute 30 ? L'autonomie, comment on peut changer les choses ? Comment on peut changer l'environnement ?
Oula.
1 minute 30 ?
Pas l'environnement, l'écologie. Notre environnement, comment on peut aider ? Comment on peut contribuer modestement ?
Alors, si on est autonome avec des solutions écologiques, parce que l'écologie, ça passe par des solutions autonomes et par de la décroissance, forcément. Ok, ça marche. Maintenant, l'autonomie, ça veut dire aussi que si j'ai de l'électricité ou si je fabrique mes trucs demain, est-ce que je vais partager mon voisin ?
Ça dépend, t'es pas forcément obligé. Gilles, toi, vas-y, excuse-moi.
Moi, je pense que les deux solutions peuvent se faire. Tu peux voir quelque chose pour toi au départ et partager avec ton voisin après. L'un n'empêche pas l'autre. Et je lisais un truc là-dessus. Une éolienne, elle est nettement moins moche et elle fait beaucoup moins de bruit si elle t'appartient. Si tu veux, tu vois, tu la trouves beaucoup plus jolie dans ces cas-là et elle passe vachement mieux.
Non, mais me lancez pas sur le truc de l'éolien.
C'était symbolique.
C'est bien sûr symbolique.
Je pense que quand tu y mets de l'énergie, quand tu as réfléchi à quelque chose, et je connais des gens ici dans la région qui ont réfléchi à ça, qui ont un habitat qui leur plaît, qu'ils ont retapé, et puis petit à petit ils sont devenus autonomes, et c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de fric, et c'est des gens qui ne sont pas nés dans un milieu bourgeois, mais à un moment donné ils ont eu la chance de rencontrer, peut-être de faire des rencontres qui leur ont ouvert l'esprit, où ils ont eu la chance de pouvoir aller à l'école et puis à l'université, parce que ça peut arriver, ça aussi ça passe passe par là. Mais je pense beaucoup, moi, je crois beaucoup aux rencontres que tu peux
partage
faire
d'expérience,
en, en bougeant. Ouais. Mais encore une fois, faut-il être mobile ? Le type qui est dans, dans son coin et qui ne veut surtout pas bouger et qui ne veut surtout pas changer, bah, c'est vrai que rien n'est possible à ce moment-là, quoi.
Moi, j'ai trouvé une petite phrase pour résumer tout ça. À tous ceux qui croient qu'il faut travailler plus pour gagner plus, j'encourage à réfléchir au fait que finalement, si on dépensait moins, on gagnerait beaucoup plus.
Non, voilà. Bien sûr, et on est tous d'accord là-dessus.
Frugalité, une chasse au gaspillage.
Faites l'amour.
Oui, oui.
Faites,
ça coûte pas cher.
Faites l'amour.
Je pense que pour le petit, c'est très très difficile aujourd'hui de se sortir du système, qui est un système qui nous porte vraiment pas là où il faudrait qu'on nous
porte. Et moi,
qu'il nous porte.
Contrairement à ce que tu penses, Marie, je reste convaincu que ça passera par un aspect, et c'est un petit peu la notion d'un mouvement comme attaque, et on terminera peut-être là-dessus. C'est que, entre guillemets, l'éducation populaire, qui est à la fois un côté péjoratif extrêmement puant, mais qui est à la fois dans l'idée quelque chose d'extrêmement intéressant, effectivement, il y a des gens qui ont moins accès, de par leur cursus familial ou de par leur non-goût pour les études, et encore une fois, il n'y a rien de péjoratif là-dedans. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui a fait beaucoup d'études, la nécessité peut-être de se donner entre nous de la culture. De ne pas avoir peur, de dire bah, « Tiens, moi j'ai une solution, j'ai trouvé un truc, regarde !» sans vouloir l'imposer.
On fera un prochain sujet, on parlera de la révolution la prochaine fois.
Voilà, échangeons.
On vous dit à la semaine prochaine, on vous fait un gros bisou. Marie, merci. Gilles, merci. Et puis à bientôt sur les tontons. Ciao, ciao.
Il va avoir un réveil pénible. Je voulais être diplomate à cause de vous tous, éviter que le sang coule, mais maintenant c'est fini. Je vais le travailler en férocité, faire marcher à coups de latte. À ma pogne, je veux le voir. Et je vous promets qu'il demandera pardon. Et on vient à vous.
J'avais oublié, il y a 10% d'amende pour la retard.
Il a osé me frapper. Il se rend pas compte.